Je vais vous lire ce que j'ai écrit à ce moment-là de ma vie. J'ai l'impression d'être inutile. Je n'achète pas de saumon ni de viande car c'est trop cher et que je préfère aller boire un verre de temps en temps avec mes amis. Et rien que pour ça, je me dis que je ne devrais pas me plaindre. Ça m'a fait un choc. C'est horrible de dire si j'achète du saumon et de la viande, je peux pas aller boire un verre avec mes potes. Donc en 2 ans, je suis passée de la nana qui dit qu'elle a pas assez de thunes pour acheter autre chose que des pâtes et des œufs en course à une nana qui a un business en ligne qui génère plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et aujourd'hui avec Internet, n'importe qui peut commencer à générer de l'argent. L'argent en ligne est facile à faire. Bien sûr qu'il faut travailler, mais on n'est pas en train de parler d'aller à la mine à 5h du mat. Donc en fait, juste cette phrase, ça te prouve que c'est possible. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque j'ai mis une boîte à questions sur Instagram pour savoir ce qui vous intéresserait, les sujets que vous voulez que j'aborde dans le podcast, dans ma chaîne YouTube, etc. Et à ma plus grande surprise, j'ai eu énormément de questions sur mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai fait avant, etc. Et j'étais assez surprise parce que j'avoue que même si je raconte pas mal ma vie dans mon contenu, je fais toujours en sorte que ce soit des expériences qui puissent vous servir, d'en tirer des leçons, etc. Et du coup, je me voyais pas faire un épisode exclusivement sur mon parcours de manière chronologique. Mais au final, je me dis que bah, si c'est une demande de votre côté, c'est que pour vous, ça a de la valeur. Donc, let's go, c'est parti. Évidemment, je ne pouvais pas juste raconter ma life sans devoir en tirer quelque chose. Et du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu découper par thématique et que j'allais à chaque fois tirer des leçons de chaque expérience pour te permettre à toi bah, de pas avoir déjà à repasser par ce que j'ai pu passer pour avoir la leçon qui va avec, te permettre potentiellement de gagner du temps ou t'inspirer, etc. Bref, on est parti. Et ce qui est dingue, c'est que pendant mes vacances dont je t'ai parlé, ma période de repos dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent, n'hésite pas à aller l'écouter après celui-là si c'est pas déjà fait. Je t'explique pourquoi c'est super important pour moi. Je l'ai réalisé super récemment, je te dis ça comme si c'était un truc que j'avais l'habitude de faire. Non, j'étais en épuisement et en fait, j'ai été obligée de m'arrêter parce que sinon j'allais péter un plomb. Et du coup, je t'explique un petit peu cette période, ce que j'ai fait pour me reposer au max, revenir en forme, appliquer toujours ces conseils-là en reprenant pour pas me recramer directement. Donc cet épisode, il est très intéressant. Et en fait, pendant cette période de vacances, je suis retournée sur Notion parce que je me suis dit il faudra à la rentrée que je m'organise mieux dans ma création de contenu, que ce soit plus fluide maintenant que j'ai plusieurs canaux. Je sens que c'est le beans, donc pourquoi pas repasser sur Notion en ayant un template avec des calendriers de contenu, etc. Et du coup, je suis retournée sur mon ancien Notion que j'avais quand j'étais à Paris. Donc début 2022, en fait, juste avant d'arriver à mon stage de fin d'études chez Canal+, j'ai eu le Covid. Donc ma rentrée dans ce stage a été décalée d'une semaine et du coup, j'étais chez moi, j'étais dépitée, c'était le début d'année, vraiment la première semaine de l'année. Et je me suis dit, en fait, je vais profiter de ce temps où j'ai le Covid et je suis enfermée chez moi pour planifier un petit peu mon année, me faire un outil, enfin trouver un outil pour que je suive un petit peu mieux mes objectifs, que je devienne quelqu'un d'organisé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé mon espace Notion. Depuis, je m'en étais pas trop resservie, j'ai dû m'en servir 6 mois et ensuite j'ai un peu lâché le truc. Et là, de retomber dessus, mais attendez, il faut que je vous partage un truc, ça m'a choquée. Et je me suis rappelée à quel point c'est important d'écrire un petit peu comme dans un journal intime pour te rappeler en fait par quoi tu es passé. Parce que moi là, dans ma période où ça y est, je gagne de l'argent, vraiment j'ai plein de choses qui se sont accomplies dans ma vie, je me souviens pas forcément des périodes difficiles que j'ai pu traverser. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très optimiste et du coup, j'ai tendance, les périodes négatives de ma vie à très vite les oublier un peu, être dans le déni de ça, pour pas que ça m'empêche d'avancer. C'est impressionnant, je vais vous lire en fait tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous lire ce que j'ai écrit à ce moment-là de ma vie, pour vous montrer à quel point ça a pas toujours été facile pour les gens qui aujourd'hui réussissent selon vous, qui vous inspirent, etc. Ils sont aussi passés par des périodes plus compliquées. Si toi tu la traverses en ce moment, au moins tu pourras t'identifier à ça et te dire ok, il y a encore plus d'espoir, parce que si elle a réussi à sortir de ça, moi aussi j'en suis capable. Et moi ça m'a permis vraiment de me dire, waouh, mais le chemin parcouru, qu'est-ce que j'ai bien fait de me faire confiance, parce qu'en fait je me suis sortie d'une situation qui ne me correspondait pas du tout et dans laquelle j'étais pas heureuse. Le 14 mars 2022, j'ai écrit « J'ai l'impression d'être inutile, de n'avoir aucun but, aucune mission dans la vie, aucune raison de me lever le matin. Je ne sais pas ce que je veux faire et même si je garde la conviction profonde que je réussirai quoi qu'il arrive, c'est dur. » Dur de travailler et d'avoir toujours travaillé dur, mais de ne pas pouvoir faire des courses autres que des pâtes et des œufs. Je n'achète pas de saumon, ni de viande, car c'est trop cher. Et que je préfère aller boire un verre de temps en temps avec mes amis. Et rien que pour ça, je me dis que je ne devrais pas me plaindre. Quand j'ai relu ça, ça m'a fait un choc. Genre vraiment, ça m'a fait un choc. Je me souvenais qu'à Paris, je me sentais pas bien, que la vie était chère, que je me voyais pas du tout continuer là-bas, avec un salaire de merde, etc. Mais je ne me souvenais pas, enfin, c'est horrible de dire j'achète que des pâtes et des œufs parce que j'ai pas les moyens de faire autrement et qu'en fait, si j'achète du saumon et de la viande, je peux pas aller boire un verre avec mes potes. Donc là, je me suis dit, ah ouais, grosse, enfin, en fait, même si t'as pas connu la misère, tu vois, j'avais un toit et je bouffais quand même si c'était des pâtes, tout est relatif. Mais t'as pas toujours été dans le confort de vie dans lequel tu es actuellement. Et en fait, ça permet aussi de se dire, bah en fait, ce que j'ai à l'heure actuelle, c'est déjà incroyable. Encore dans cette course effrénée, comme je te l'expliquais dans l'épisode précédent, où on veut toujours plus, on a l'impression qu'il y a une ligne d'arrivée alors qu'il y en a pas. Bah en fait, tu te dis, là, même si je veux plus et que je vais avoir plus et que je vais continuer de m'épanouir, de réussir, bah en fait, c'est déjà très bien ce que j'ai. Parce qu'il y a quelques années en arrière, je disais pas la même chose et je me sentais pas bien comme je me sens aujourd'hui et j'avais pas les avantages que j'ai aujourd'hui. Donc ouais, de relire ça, ça m'a mis un choc et je me suis dit ouais ok, en fait c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique, un petit peu beaucoup en mode j'ai eu plusieurs vies. Je me souviens quand j'étais en Suède, je t'en reparlerai, j'ai des copines qui faisaient leur CV, moi mon CV il était déjà fait, prêt, etc. Le CV pour le stage de fin d'études et quand j'étais à l'école je donnais des conseils aux autres, aux étudiants pour parler à l'oral, pour préparer leurs écrits, pour faire leur CV et tout, donc moi j'avais pas de souci avec ça. Je savais faire un CV un petit peu original et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été retenue chez Canal+ dans un premier temps. Et en fait, mes copines, quand elles voyaient mon CV, elles me disaient « Mais comment t'as pu faire tout ça ?» Genre, mon CV, je n'arrivais pas, quand j'étais en cours en école de commerce, qu'on nous apprenait un peu à faire les CV, même si c'était très léger, on me disait « Non, mais tu peux pas avoir un CV de 2 pages, c'est pas possible, on lit pas 2 pages de CV. » Et moi, je me disais « Mais comment je vais faire pour faire tout tenir ?» Du coup, il y a des trucs que j'avais fait sauter, mais c'était frustrant pour moi, parce que c'est des expériences à mon âge qui étaient ultra enrichissantes. Enfin, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon parcours, il était pas super normal, il était très riche par rapport à mon âge. Donc le premier disclaimer que je voulais aborder avant de vraiment rentrer dans la chronologie de mon parcours, c'est que je suis profondément convaincue que peu importe d'où tu viens, ce que t'as vécu, peu importe ton passé, peu importe ce qu'on a pu te dire, peu importe ta classe sociale, peu importe ton métier actuel, si tu ne l'as pas choisi, tes études, si tu ne les as pas choisies, ou si tu t'es planté, etc. Peu importe tout ce que tu as vécu, et même ta situation actuelle, peu importe tout ça, je suis convaincue que tu peux réussir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Internet, et aujourd'hui, avec Internet, n'importe qui, avec un ordinateur ou même juste un smartphone, peut s'en sortir, peut commencer à générer de l'argent en ligne, peut se former pour ensuite vendre ses compétences, son temps, des produits, peu importe ce que tu choisis. Il y a énormément de manières de faire de l'argent en ligne. L'argent en ligne est facile à faire. Et je vais pas me faire des amis en disant ça parce que c'est pas facile. Bien sûr qu'il faut travailler, mais on n'est pas en train de parler d'aller à la mine à 5h du mat, on n'est pas en train de parler de mettre en rayon, moi je l'ai connu, ou enfin voilà, de faire des travails qui te fatiguent physiquement aussi, enfin qui sont intenses, où en fait tu peux pas contrôler les heures auxquelles tu dois aller bosser, les heures auxquelles tu fais tes pauses, etc. Là on est en train de parler d'un métier sur internet qui est certes pas facile, parce que c'est pas facile de trouver ses premiers clients, c'est pas facile de se former, c'est pas facile de rester motivé, mais à un moment, il faut choisir tes difficultés dans la vie, et là on est en train de parler de faire de l'argent en ligne, à 16, 17, 18 ans, tu peux commencer. Alors qu'avant, bon, il y a une période où tu pouvais travailler à 16 piges. Moi, de mes 16 ans à mes 18 ans, j'étais frustrée de pas pouvoir travailler parce que, en fait, ma sœur avait travaillé dès 16 ans, commençait à générer de l'argent. Et moi, je pouvais pas parce que j'étais pas majeure et que c'était illégal. Aujourd'hui, tu peux faire de l'argent en ligne. Tu peux te former, tu peux monter en compétences et tu peux monétiser ta passion, tes compétences, etc. Que ce soit à travers la création de contenu, comme je l'apprends dans mes accompagnements, à travers la création d'une offre, etc., digitale, mais aussi à travers, par exemple, être freelance, faire des miniatures YouTube. Aujourd'hui, faire des miniatures YouTube, ça devient un métier. Parce qu'il y a tellement de demandes, bah, qu'en fait, si t'as une offre, eh bien, les gens vont l'accepter. Si tu fais gagner du temps et donc de l'argent à certaines personnes, par exemple moi, en créant des miniatures qui sont bien faites, originales dans les codes, etc., eh bien sûr que je vais te payer pour ça. Et en fait, à partir du moment où tu réalises que l'argent en ligne est facile à faire, possible, réalisable, peu importe ton passé. Ça change déjà quelque chose dans ta manière d'aborder. Il y a plein de gens qui pensent que c'est pas possible, il y a plein de gens qui comprennent pas en fait. Mais nous, on ne demande pas de comprendre, on te demande juste de faire. Si t'es pas bien dans ta situation actuelle, sache qu'il y a une porte de sortie royale qui est avoir un business en ligne ou vendre ses compétences sur internet. Et en fait, moi je suis convaincue que si j'avais pas découvert cette opportunité, je serais encore à bouffer des pâtes et des œufs et pas de saumon ni de viande pour pouvoir le week-end aller faire des trucs à Paris pour pas rester enfermée dans mon 15 mètres carrés sous les toits quand il y a la canicule, tu vois. Je suis convaincue de ça parce qu'en fait, les salaires qu'on me proposait, c'était pas du tout adapté, quoi. Enfin, c'était pas du tout adapté à mon bac plus 5, c'était pas du tout adapté à ce que j'avais envie de faire. J'avais d'énormes ambitions déjà à l'époque, et je me disais, c'est pas possible, ou alors va falloir que j'attende 10-15 ans pour avoir un salaire à peu près à la hauteur de mes ambitions, parce que je vais essayer de me battre pour avoir des augmentations tous les ans et tout. C'est pas ma vision des choses. Et donc, bah, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me dire, c'est pas ça que je veux. Et je vais trouver une solution, je savais pas comment, mais je vais trouver une solution pour me sortir de ça et pour être indépendante comme j'ai toujours voulu l'être. Donc en 2 ans, je suis passée de la nana qui dit qu'elle a pas assez de thunes pour acheter autre chose que des pâtes et des œufs en course, à une nana qui a un business en ligne qui génère plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc en fait, juste cette phrase, ça te prouve que c'est possible. Ça te prouve que c'est possible. Et arrête de trouver des excuses. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais il faut de l'argent. Moi, j'ai investi 0 euros à la base. Je me suis formée, certes. En fait, si tu te formes, tu vas aller beaucoup plus vite. C'est pas indispensable, mais ça va te permettre d'aller plus vite. Et en fait, au départ, il faut essayer de remettre une partie de ce que tu gagnes dans l'investissement en toi pour aller plus vite et pouvoir générer plus d'argent. Tu peux pas générer plus d'argent si t'en investis pas un petit peu en toi. Mais ça peut commencer par, comme je te l'expliquais dans d'autres épisodes de podcast, par acheter des bouquins à 20 balles si t'as pas les moyens de te payer une formation à 200 balles. Puis ensuite, bah, une fois que t'as les moyens de te payer la formation à 200 balles, tu les mets là-dedans plutôt qu'en achetant des conneries. Et ensuite, bah, petit à petit, comme ça, tu te rapproches, tu prends des coachings à 2000 euros et tu continues comme ça d'avancer et de grossir. Mais au tout départ, t'as besoin de 0 argent, juste de ton temps, de te former en ligne. T'as des informations gratuites aujourd'hui sur YouTube. Tu peux devenir community manager, tu peux faire des miniatures YouTube comme je t'ai dit. Tu peux devenir, j'en sais rien, monteur vidéo. Enfin, il y a énormément de possibilités et de demandes en termes de compétences à ce niveau-là. Tu peux devenir créatrice de contenu IGC, tu peux devenir créatrice de contenu influence. Enfin bref, il y a énormément de possibilités. Je vais pas revenir dessus, mais c'était vraiment important pour moi de le dire, de le souligner. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir une famille aisée. Tu n'as pas besoin, enfin tu vois, faut arrêter, faut péter toutes ces croyances des gens qui font qu'ils restent dans leur situation qui ne leur convient pas parce qu'ils pensent que c'est pas fait pour eux, parce qu'ils pensent qu'ils ont pas eu la chance. C'est comme les gens qui disent, bah non, je vais pas commencer sur TikTok parce que maintenant c'est bouché, maintenant il y a trop de monde, puis je vais pas commencer sur YouTube parce que bah là YouTube ça c'est fini quoi, et puis Instagram, bon bah maintenant qu'il y a TikTok. En fait, c'est des excuses. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de réussir en ligne. Le seul truc difficile, c'est de changer ton mindset, c'est de changer ton état d'esprit, c'est de persévérer, c'est de tester, de vivre des expériences, de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort. C'est ça qui est important. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu mettes ton intention, ton énergie. Mon parcours, tu vas voir, il est assez atypique. Tu vas voir que j'ai fait plein de trucs, j'ai testé plein de trucs. Encore une fois, ne te compare pas. Inspire-toi, c'est normal si à mon âge ou même en étant plus vieille, t'as pas fait autant de trucs que moi, t'as pas eu autant d'expériences que moi. C'est pas grave, ça veut pas dire que tu vas pas réussir. Là, cet épisode, il est juste là pour t'inspirer, pour te transmettre des leçons et te permettre d'apprendre aussi à me connaître, parce que je pense que les gens qui me demandent mon parcours, c'est aussi bah, parce qu'ils ont envie d'en savoir plus sur moi. Mais encore une fois, ne te compare absolument pas, c'est pas du tout le but de cet épisode. Donc je te partage mon parcours avec plusieurs objectifs en tête. Soit tu vas faire des analogies par rapport à ton propre parcours et te dire, ah ouais, c'est vrai que moi aussi, dans telle situation, dans telle expérience de ma vie, c'est vrai que j'ai sorti cette leçon, j'ai tiré cette leçon, etc. Deuxième possibilité, ça va te faire gagner du temps. Tu vas pas être obligé de revivre les mêmes expériences que moi pour tirer des conclusions, des leçons sur ce qui toi peut te permettre d'avancer, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, etc. Troisième objectif, c'est aussi de te montrer que chaque expérience de ta vie, peu importe qu'elle ait eu un résultat positif, qu'elle t'ait apporté vraiment quelque chose, qu'elle te permette d'en être là aujourd'hui, malgré tout, même si tu le vois pas, il y a une importance. Chaque étape, chaque expérience va te permettre d'avancer, et c'est vraiment ça que je veux transmettre, c'est qu'en fait, je sais pertinemment que j'en serais pas là si je n'avais pas fait toutes ces expériences, alors qu'il y en a certaines que j'ai pas aimées, et que si je devais refaire, je referais peut-être autre chose. Je pense, je prends un exemple, par exemple, école de commerce. Bon, tu vois, je recommande pas forcément, etc. Mais comme je savais pas quoi faire, j'ai fait ça et ça a très bien été. Et c'est comme ça que j'ai trouvé réellement ce que je voulais faire, que j'ai vécu des expériences, que je me suis engagée dans la vie associative. En revanche, à l'heure actuelle, avec le recul, ce qui aurait été plus cohérent pour moi, mais qui aurait peut-être pas fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'aurais pu faire une école de communication. Ça aurait été beaucoup plus ciblé, j'aurais appris beaucoup plus de choses dans mon domaine. Moi, je me suis formée toute seule à la com. Mais si j'avais fait une école de communication, bah bien sûr que j'aurais appris des compétences, des hard skills beaucoup plus précises, développées qu'en école de commerce. Mais par contre, peut-être que du coup, je me serais retrouvée en agence de com et j'aurais pas du tout créé ma boîte parce que c'est l'école de commerce qui m'a fait aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc encore une fois, chaque expérience de ta vie te sert à quelque chose. Ne regrette absolument rien. Tire juste des conclusions de ces expériences et fais en sorte qu'elles te servent. Fais en sorte de ne pas les reproduire si c'est des choses qui sont pas bien passées ou de miser dessus si c'est des choses qui vraiment te font kiffer et te permettent de te sentir réellement toi et d'avancer. Allez, on commence, ça fait 22 minutes, tout va bien, tu commences à être habitué à mes intros qui sont plus longues que l'épisode en lui-même. Non, je pense que cet épisode va être un peu plus long que d'habitude, mais au moins t'auras tout l'historique de ma jeune vie. Du coup, on commence par l'école primaire, le collège, le lycée. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu des facilités. J'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup travaillé. Enfin, si, quand j'étais très petite, on me faisait faire des dictées, on me faisait faire absolument tous mes devoirs, même des devoirs supplémentaires. J'avais des dictées 2-3 fois par semaine. Donc, c'était pas forcément quelque chose qui était fait à l'école. Et je sais que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout de problème d'orthographe ou très peu. On m'a toujours poussé à travailler plus que les autres, à ne pas faire d'erreurs, etc. Ce qui me sert peut-être pas forcément aujourd'hui parce que ça fait que je suis et que j'étais très perfectionniste, je commence à m'en sortir et c'est comme ça que j'ai pu développer mon business quand j'ai commencé à lâcher prise sur tout n'est pas parfait, etc. C'est possible de se tromper. Mais quand j'étais jeune, c'était pas possible. C'était, tu fais une faute, c'est mal, tu recommences jusqu'à temps que tu y arrives parfaitement. Et donc, c'est ce qui fait, je pense, qu'en primaire, collège, lycée, j'ai eu des facilités parce qu'en fait, j'avais acquis des compétences de travail très naturelles, efficaces, optimisées. Je savais aller à l'essentiel, je savais intégrer les choses assez facilement. Je savais, ce qui n'est plus trop le cas maintenant, c'est dingue quand même, mais je savais écouter le prof intégré pendant le cours pour ne pas avoir à refaire chez moi, alors que pourtant je pouvais discuter et bavarder en même temps, alors qu'aujourd'hui je sais plus faire deux choses en même temps. Mais bon, à l'époque, ça me posait pas de problème. Et donc j'avais énormément de facilité. Et comme je l'ai dit dans un dernier réel qui a pas mal cartonné, j'étais très bavarde. Parce qu'en fait, je pense que je me faisais chier et que du coup, j'avais envie de parler et j'avais aussi envie de faire mon intéressante, etc. Donc, ça m'a suivi toute ma scolarité. C'était très dur à la maison parce que j'avais des excellentes notes. J'étais une des premières de ma classe, mais comme j'avais des problèmes de comportement, bah, je me faisais quand même disputer. Et du coup, j'avais l'impression d'être jamais assez. Comme je l'ai déjà dit aussi, quand j'avais pas 20, bah, ça allait pas. Si j'avais 18, fallait que j'aie 20, etc. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai des capacités et que j'en suis là, c'est sûr. Mais ça fait aussi que j'ai des petits défauts. De perfectionnisme, de jamais satisfaite de moi-même, du syndrome de l'imposteur, etc. Ce qu'on m'a appris aussi et que je recommande pas forcément, c'est d'apprendre par cœur. J'apprenais tout par cœur parce que pour ma famille, les personnes qui me faisaient faire les devoirs, etc., si je savais tout par cœur, ça voulait dire que je savais et que j'allais répondre parfaitement à ce qu'on me demandait. Et c'est vrai, hein. Comme je recrachais par cœur le lendemain au contrôle absolument tout ce qu'il y avait dans la leçon, j'avais des excellentes notes. Mais par contre, une semaine après, tu me redemandais que ce que c'était machin, bah je m'en souvenais pas. Parce qu'en fait, j'apprenais bêtement par cœur des choses qu'au final, je n'intégrais pas forcément. C'est pour ça que j'étais d'ailleurs forte en maths. Par exemple, moi j'ai eu mon bac S mention très bien, j'ai jamais su mes tables de multiplication. Mais on s'en foutait parce que t'en as plus besoin. Une fois que t'arrives en bac S, t'as une calculette. S'il faut que tu fasses 3 x 4 sur ta calculette, tu le fais, personne va t'engueuler. Même si à la base, la calculette, elle est pas faite pour ça. Je m'en servais aussi pour ça et ça n'a jamais posé souci. À un moment, c'est bien de connaître ses tables, mais aujourd'hui, on a des outils qui permettent de s'en rappeler beaucoup plus vite que s'il faut se réciter toute la table, machin. Je trouve que apprendre par cœur, ça n'a jamais été la solution. Et j'ai quand même eu mon bac S mention très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand t'arrives au lycée, t'as beaucoup plus d'exercices pratiques. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est j'apprenais pas ma leçon du tout. Je regardais pas, tu sais, on recopiait le cours du prof dans notre cahier et tout. Ça, c'est complètement débile parce que, en fait, bah, quand t'apprends par cœur, t'apprends pas vraiment. Donc, je regardais pas du tout mes cours. Enfin, je regardais les formules, etc. Mais j'apprenais pas par cœur. Et en fait, je faisais énormément d'exercices. J'ai un souvenir de ça. C'est que j'étais ultra efficace. Je passais pas du temps sur les choses qui n'étaient pas nécessaires. Je faisais les exercices et t'avais des exercices par leçon. Donc, en fait, une formule, Comment je l'apprenais? Je l'apprenais en faisant 4-5 exercices, en regardant la solution, si je me suis trompée, pourquoi je me suis trompée, et je refaisais l'exercice jusqu'à temps que j'ai la bonne réponse et que j'ai intégré le principe derrière. Et c'est ça qui a fait que j'avais des bonnes notes. Pareil, je me souviens qu'en histoire géo, on avait des cartes à reproduire. En histoire, vraiment, le bac, c'était n'importe quoi parce qu'on avait appris des trucs tout au long de l'année. Et en fait, il y avait que quelques trucs sur lesquels on pouvait passer. Et il suffisait d'apprendre exactement la disserte qui va avec la thématique pour avoir une bonne note. Enfin, je me souviens que c'était trop bizarre, genre c'était pas du tout de la réflexion, c'était vraiment si tu te souviens de ce que t'as appris mot pour mot, bon bah t'as une bonne note. Donc moi j'avais fait ça, enfin vraiment par matière, je me disais ok, dans cette matière pour avoir la meilleure note possible, il faut ça, 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 ça. Pour les maths, c'est les exercices. J'ai beau connaître ma leçon par cœur, non ça marche pas, il faut que je fasse et que je ponce des exercices parce que c'est toujours les mêmes exercices qui reviennent. Le bac vraiment c'était ça, hein. Le bac il y avait rien de compliqué, c'était tout le temps les mêmes trucs. Donc moi je comprenais pas comment les gens pouvaient ne pas réussir alors qu'en fait c'était exactement la reproduction de ce qu'on faisait toute l'année. Et j'ai compris qu'en fait c'était juste du manque de travail régulier. Et en fait moi j'avais pas l'impression de beaucoup travailler parce que j'avais des facilités, mais j'étais quand même ultra régulière. Tu vois, j'allais faire mes devoirs de manière assez régulière, j'allais jamais prendre trop de retard dans une matière. Et du coup la régularité a fait que j'ai jamais eu de mal sur mes différentes épreuves parce que bah c'était juste le reflet du travail donné toute l'année. Et ça me fait penser à l'épisode de la semaine prochaine sur l'effet cumulé, on en reparlera, mais tu vois, je l'avais pas analysé, mais en fait je l'analyse là en te parlant que c'était déjà à l'époque de l'effet cumulé. En fait, moi toute ma vie, les gens ils se demandent comment tu réussis, bon bah c'est l'effet cumulé en fait de ma primaire, ma petite section jusqu'à mon lycée, j'ai travaillé de manière régulière, pas forcément super intense, mais en fait c'est l'effet cumulé de si tu travailles, bah en fait tu vas accumuler des compétences, accumuler de la facilité de travail, tu vas pouvoir travailler moins longtemps que les autres mais de manière plus efficace, etc., etc. Donc ce que je retiens de cette période de ma vie, c'est déjà de comprendre pourquoi tu fais les choses. En fait, moi, mon profil à l'école aurait voulu que bah je continue dans les voies toutes tracées, donc j'étais une bonne élève, donc je serais un bon élément dans une entreprise, etc. Et moi je me suis affranchie de ça direct, mais par contre j'ai dû m'enlever plusieurs freins. On vous dit souvent que les entrepreneurs qui réussissent sont les gens qui étaient derniers de la classe à l'école. Et en fait c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de mindset, encore une fois, tout est question de mindset. Celui qui est dernier de la classe, il en a rien à foutre, il est pas du tout dans le perfectionniste, il a pas du tout envie d'avoir la meilleure note possible, il est pas au bon endroit, il a juste besoin d'être motivé par quelque chose pour se mettre au travail, etc. Moi, c'était l'inverse, j'avais une capacité de travail énorme et je travaillais pour les autres, pour les bonnes notes, pour rendre fiers mes parents, pour que, en fait, atteindre la perfection alors qu'elle n'existe pas. Enfin voilà, j'étais vraiment dans le système scolaire comme il veut qu'on soit. Et du coup, pour entreprendre derrière, quant à ça, c'est beaucoup plus dur parce que certes, t'es intelligent, t'es cultivé, etc. Enfin, même si je me considère pas ultra cultivé, mais t'es intelligent aux yeux de l'école et de l'éducation nationale. Mais par contre, t'as beaucoup moins de capacité à réfléchir par toi-même, ce qui va être indispensable quand tu entreprends parce qu'en fait, va falloir que tu prennes des décisions, va falloir que tu crées des stratégies, des trucs. Donc c'est beaucoup plus difficile. Va pas falloir du tout que tu sois perfectionniste quand t'entreprends parce que sinon tu ne fais jamais. Et c'est le passage à l'action qui fait que tu vas réussir, que tu vas progresser et que tu vas t'améliorer. C'est pas en attendant d'avoir un truc parfait qui n'est jamais sorti que le truc va marcher quand il sort. Il y a aussi à accepter l'échec. Moi j'ai jamais connu d'échec dans mon parcours scolaire, j'ai quasi jamais connu de mauvaise note, etc. L'échec pour moi n'était pas envisageable. Et l'échec pour moi était une preuve d'être mauvais ou d'être pas assez, etc. Alors qu'en fait l'échec, fait partie du jeu quand tu entreprends et n'est pas forcément négatif. Qu'à l'école, une mauvaise note, c'est une merde. Donc les gens qui étaient moins bons à l'école ont eu l'habitude de ça et donc ne retrouvent pas ces freins-là dans l'entrepreneuriat. Donc moi, c'est ça que j'ai tiré comme leçon, c'est que j'avais beau être forte à l'école, ça voulait pas dire que je serais forte en entrepreneuriat et il allait falloir que je pète plein de croyances supplémentaires que d'autres n'ont pas forcément parce que j'étais dans le moule et que j'avais toujours cette validation de l'extérieur et que Donc les leçons que j'en tire, c'est qu'il faut absolument comprendre pourquoi tu fais les choses pour les faire bien. Il y a pas besoin d'être bon à l'école pour réussir. Être toujours le meilleur n'aide pas dans l'estime de soi, au contraire. Ouais, ça c'est aussi super important. C'est que moi j'ai confiance en moi, en capacité, mais j'ai une très faible estime de moi. Je m'en rends compte là dans mes thérapies que je suis, dans mes coachings. Pourquoi ? Parce qu'en fait, encore une fois, j'ai basé toute ma réussite, ma valeur sur le regard extérieur des autres. Sur, bah t'as fait quelque chose, tu obtiens une note. Et la note égale ta valeur. T'es forte, t'es pas forte. Tu fais, t'as un certain comportement, la personne elle va te valider ou elle va te disputer. Ça, c'est synonyme de ta valeur. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans ce schéma-là. Et du coup, être toujours le meilleur et toujours réussir n'aide pas dans l'estime de soi parce que du coup, quand tu vas échouer, tu vas te sentir comme une merde. Que si tu as l'habitude des échecs et des réussites, bah tu vas pas du tout les associer à ta valeur, parce que tu vas considérer que ça fait partie de la vie et que c'est comme ça qu'on avance. Que quand tu as que des réussites, que t'as l'habitude d'être toujours la meilleure, etc., t'as l'impression que t'as une super estime de soi parce que tu confonds avec la confiance en toi, alors que c'est pas du tout le cas. Et autre point super important de cette expérience, c'est que ton environnement a un impact de ouf sur ta vie, sur tes choix. Moi, quand j'étais jeune, en fait, je suivais la vie de mes profs, de mes parents, des conseillers d'orientation, enfin voilà. Tout a toujours été tout tracé pour moi. Bon bah tu vas faire ça, là tu vas faire un bac S parce que ça ouvre des portes et t'as des compétences, t'as des capacités. Ensuite tu vas aller en prépa parce que t'es une des meilleures donc faut que t'ailles en prépa. Et je savais même pas pourquoi je le faisais. Jamais on m'a demandé qu'est-ce que au fond de toi, qu'est-ce que t'aimes vraiment, qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te fait kiffer, etc. Non, c'est parce que t'étais forte là-dedans, bah tu vas faire ça et ça et ça. Je suis arrivée en école de commerce, je savais même pas pourquoi j'étais là. Et c'est une excellente transition parce qu'évidemment, l'étape suivante, c'est non, pas de l'école de commerce, d'abord la prépa. Et la prépa, je savais pas non plus pourquoi j'étais là. Et là, je me dis, je suis bête. Enfin, vraiment, je suis bête. Mais pour moi, classe préparatoire aux grandes écoles, c'était encore une manière, comme le bac S, de continuer à être dans le système scolaire, d'être bien au chaud, bien protégé, et de me poser plus tard la question de ce que je voulais faire. Plus tard. Je sais pas ce que je veux faire, on verra plus tard. Et là, la prépa, c'est assez difficile pour l'ego. Parce qu'en fait, tu passes de être la meilleure à être une meuf parmi tous les meilleurs. Et du coup, comme moi, j'avais pas envie d'être là, et je savais pas pourquoi j'étais là, bah je suis devenue une moyenne parmi les meilleurs, parce qu'en fait les meilleurs, c'était les meilleurs parce qu'ils travaillaient de ouf, parce qu'ils voulaient aller à HEC, ils voulaient la meilleure école de commerce, parce qu'ils voulaient être dans telle grande entreprise, et qu'ils voulaient avoir un gros salaire, et nanana. Moi, ça m'a jamais fait trop rêver, j'ai jamais trop compris ce qu'on faisait en sortant d'une école de commerce, mais je me suis retrouvée en prépa, parce que j'aimais bien les maths et la géopolitique. Et du coup la prépa, comme je savais pas forcément ce que je foutais là, je sortais beaucoup, parce qu'en fait, j'ai eu mon appartement du coup à 18 ans parce que bah voilà, je pouvais pas faire les allers-retours chez mes parents parce qu'il fallait que je travaille. La prépa, c'est énormément de travail. Donc oui, certes, je travaillais quand même, hein, je vais pas te dire que j'ai rien foutu, mais je travaillais beaucoup moins que certaines autres personnes. Et d'être à Dijon, mes autres potes étaient en DUT, à la fac et tout, donc sortaient tous les jeudis, vendredis, samedis presque, enfin surtout les jeudis, parce que eux, ils avaient pas forcément beaucoup de travail, tu vois. Sauf que moi, bah en fait, j'avais pas du tout envie de passer mes soirées à travailler. J'avais envie de passer mes soirées à sortir avec mes potes. Et du coup, bah je suis énormément sortie pendant cette période de prépa. Et je le regrette pas du tout, parce qu'en fait, ce que j'aurais regretté, ça aurait été de me buter à la tâche, de travailler énormément, alors qu'en fait, c'était pas ce que je voulais au fond de moi. Et qu'en fait, je me suis dit, mais heureusement qu'en prépa, je me suis retrouvée toute seule, indépendante et libre, parce que j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire sortir avec mes potes, profiter de ma jeunesse, entre guillemets, kiffer ma vie, et certes travailler parce que bah, j'avais encore des notions de travail et que je voulais quand même ne pas être parmi les plus nuls, et que je me disais c'est quand même mon avenir qui est en jeu, mais j'avais pas ce truc de je vais tout mettre de côté pour avoir la meilleure école, non. Je commençais à sentir que j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'une vie sociale, et je voulais pas être la tête dans mes bouquins pendant des années, alors que je sentais que c'était là que ma jeunesse se passait, tu vois. Et aujourd'hui, je suis trop contente, parce qu'il y a des gens, quand ils arrivaient en école de commerce, ça faisait 2 ans qu'ils avaient pas vu la lumière, ils ont complètement explosé en val, parce que là, pour le coup, ils ont commencé à sortir, que moi, j'étais déjà habituée. Donc, tu me disais, tu sors toute la semaine en école de commerce parce que tu listes. Bon, bah, certes, c'était un rythme un peu plus intense de sortie, mais ça faisait pas 2 ans que j'avais pas vu une lumière, enfin que j'avais pas bu une goutte d'alcool ou quoi, donc bon, ça allait. Mais il y a des gens, mais c'était impressionnant à quel point, en fait, l'école leur a roulé dessus, dans le sens où ça faisait tellement 2 ans qu'ils étaient obsédés par la prépa et tout, que en fait, alors qu'ils ont pas eu des écoles de ouf malgré tout, s'ils étaient dans mon école, c'est qu'ils ont dû beaucoup travailler pour pas beaucoup de résultats, donc moi au final j'étais contente d'avoir travaillé le strict minimum et de quand même être contente du résultat obtenu. Mais voilà, ils ont explosé parce qu'ils étaient pas habitués à ça et que l'école c'est vraiment pas du tout comparable à la prépa en termes de charge de travail, on est d'accord, mais en termes aussi de vie nocturne et d'activité extrascolaire, on va dire. Mais du coup la prépa c'était pas forcément facile pour l'ego de se dire j'arrive et je suis plus du tout la plus forte, je suis plus la plus intelligente, je suis plus la première de la classe. Moi en fait quand je suis arrivée j'ai direct été super lucide, en fait c'est que à part si vraiment je travaillais nuit et jour, HEC c'était pas possible pour moi, enfin tout est possible, mais vraiment la condition c'était que je me bute et que je m'acharne au travail pour ne pas avoir la certitude, sans pour autant avoir la certitude d'avoir HEC. Moi, j'en avais rien à foutre. Et je me disais, bon bah, j'aurai pas HEC, c'est vraiment celle pour moi qui fait la différence, tu vois, les autres, je les mets un peu toutes dans le même panier. Du coup, bah, je vais pas m'épuiser pour un truc que j'aurai pas, donc voilà, c'est bon, je peux faire ma life, et je réussirai à avoir, tu vois, à l'époque, à mon classement, j'avais à peu près Toulouse. Donc tu vois, top 10. Je m'étais dit, top 10, c'est large faisable, je vais faire ça. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé après le changement qu'il y a eu. Entre la prépa et l'école, pendant ma classe préparatoire, il y a eu une grosse partie de ma vie qui s'est jouée là, une grosse thématique. Donc on a fait la partie école primaire, collège, lycée, la partie prépa. Oui, j'ai fait de la politique. Et ça, je vois que ça vous titille, je vois que ça vous intéresse quand j'en parle un peu, parce que c'est pas quelque chose qui se voit sur ma tête, c'est pas quelque chose que je partage aujourd'hui, parce que je considère que ça n'a aucun intérêt dans mon business. Moi, j'ai plus du tout d'avis politique, je me suis vraiment dégoûtée du truc, je vais vous en parler là. Mais vraiment, déjà, ça m'énerve parce qu'on me met dans des cases. Parce que je gagne beaucoup d'argent, je suis de droite. Voilà. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'insupportait à l'époque. C'est que, bah, il y avait des gens qui se disaient qu'ils étaient de gauche parce qu'ils étaient pauvres, et des gens riches de droite. Enfin, voilà, c'était vraiment le raccourci. Et pour moi, la bêtise humaine, elle était là-dedans. C'était qu'on va se taper dessus, on va pas s'aimer, parce que il y en a un qui est riche, un qui est pauvre. Et moi, je commençais à m'intéresser au développement personnel, je commençais à lire Père riche, père pauvre, justement, que je t'ai recommandé dans plein d'épisodes, donc j'espère que tu l'as lu. C'est vraiment les bases de tout sur la mentalité, de sortir de la rat race, de pouvoir investir, les différences entre l'investissement, les dépenses, entre le passif et l'actif. Bref, les bases de l'éducation financière se trouvent dans ce bouquin, que tu n'apprends malheureusement pas à l'école, donc je te recommande vraiment. Et donc moi, dans le métro, je me souviens, quand j'allais au taf à Paris, je lisais ce genre de livres. Et du coup, je commençais à m'intéresser à tout ça. Et donc, j'arrive en classe préparatoire, et là, on a cours de géopolitique. Et en 2017, j'étais en classe préparatoire, et il y avait les élections présidentielles. Et je venais d'avoir 18 ans, donc c'était la première fois de ma vie que j'allais voter. Donc en fait, j'ai commencé à prendre ce sujet à cœur, parce que je me disais, c'est ma responsabilité, en plus je suis en classe préparatoire, je m'intéresse à l'actualité, à la géopolitique, évidemment que je vais aller voter, et évidemment que je vais commencer à réfléchir à mes idéaux politiques, à l'idéologie qui me parle le plus, dans laquelle je peux me retrouver. Et tu sais, je pense que quand t'es adolescente, t'as aussi une quête un petit peu de sens, donc j'étais un peu là-dedans. Et donc j'ai commencé, et à travers aussi ma classe prépa, tu vois, on a commencé à parler un petit peu politique, les différents partis, les différents candidats, et donc je me suis penchée sur le sujet. Et du coup, bah en fait, j'ai pris le truc à cœur, je suis allée à un meeting politique du mec qui me paraissait le plus en accord avec mes valeurs, c'est-à-dire l'ambition, là un petit peu méritocratie, enfin voilà, de dire aussi que tu peux réussir de peu importe d'où tu pars, et que bah, c'est le travail qui te permet d'atteindre la richesse, que tu peux t'émanciper, que tu peux réussir par toi-même, etc. Et moi, j'avais beaucoup la vision, tu sais, un peu des States, des gens qui réussissent à l'époque. Bref. Et donc, je fais un meeting, et là, chaud à l'américaine. Et là, je me dis, quoi ? Mais la politique, c'est ça, en fait. La politique, c'est pas des vieux qui parlent et qui se crêpent le chignon et qui donnent envie de se pendre. C'est un jeune, bon, tu verras de qui je parle, mais j'ai pas envie de le citer, parce que j'ai plus envie d'être associé aux personnages, aux idées politiques et tout, parce qu'il y a eu trop de polémiques et je veux pas du tout être là-dedans. Je te raconterai, mais moi, je suis ma route maintenant. Et mais voilà, je me dis, putain, un jeune qui arrive, qui débarque, qui veut casser les codes, c'est exactement ce que moi j'avais envie de faire dans ma propre vie, tu vois, de dire, mais en fait, c'est pas parce que c'est pas blanc ou noir, c'est on peut trouver une voie au milieu, on peut s'écarter des rangs, on peut changer les choses, on peut casser ce qui est établi depuis des années pour pouvoir avancer, pour développer aussi l'entrepreneuriat, pour aider les entrepreneurs. Enfin voilà, il y avait plein de thématiques qui m'intéressaient à l'époque. Et donc je me dis, waouh, le show à l'américaine, le truc, c'était incroyable. Je sors de là, j'étais comme une folle. Tous les organisateurs, les bénévoles étaient des gens archi jeunes. Donc forcément, je me suis reconnue là-dedans. Ça m'a donné envie, tu vois. Et donc, il a été élu. Et là, j'ai eu le sentiment, genre, je me souviens que d'avoir pleuré devant ma télé et de me dire, putain, mon vote, mes votes ont servi à quelque chose. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial, genre notre avenir va changer. En fait, vraiment, je me suis dit à ce moment-là, la politique, ça change des vies. Vraiment, on va réussir à casser le truc, on va réussir à créer un nouveau système politique, on va réussir à faire que les gens s'entendent un peu mieux. La désillusion totale par la suite, mais à l'époque, voilà, ça me donnait un élan, une motivation. J'avais quelque chose de plus grand que moi et je participais un peu à une cause, tu vois. Et du coup, ensuite, après les élections, je me suis engagée en tant que jeune pour porter un petit peu les idées, pour faire avancer les choses. Très vite, j'ai commencé à prendre de la place dans le parti des jeunes. Donc au début, j'ai commencé, en fait, j'ai créé un... Et c'est pour ça que c'est marrant de raconter mon parcours, parce qu'en fait, tu vois qu'à chaque expérience, il y a des petits trucs qui, mis bout à bout, font ce que je suis aujourd'hui. Mais j'en avais pas forcément conscience. Je m'étais dit, bon, bah, il y a des trucs, voilà, la politique, c'est derrière moi, ça m'a pas servi à grand chose. Enfin, non, je l'ai jamais dit comme ça, mais je me suis pas dit que ça me servait dans mon business actuel, à part l'aspect prise de parole, etc. Mais en fait, je me rends compte que j'ai commencé avec un compte Twitter perso, parce qu'à l'époque, la politique, ça se passait sur Twitter. Donc, je commençais à faire des tweets, j'ai des tweets qui ont super bien marché, on m'appelait le bulldog. Moi, j'étais grave dans le frontal, tu vois. Mes ennemis politiques, laisse tomber, tu vois, je les clashais de ouf et tout, bref, l'enfer. Mais voilà, à l'époque, c'était sur Twitter, et donc, le responsable du parti jeune m'a dit, bah écoute, je vois que tu maîtrises, moi, je maîtrise pas du tout, est-ce que tu serais d'accord pour reprendre la com Twitter de notre parti et tout. Et je dis, bah let's go. Et en fait, c'est là que ça a commencé, la com. Et moi, je le voyais beaucoup plus tard dans ma vie, alors que pas du tout. J'ai déjà eu cet aspect très tôt. Je gère la communication de quelqu'un, de moi-même, puis ensuite de quelqu'un d'autre, d'un groupe, d'une organisation. Donc j'ai fait ça, et ensuite, je suis passée responsable départemental des jeunes, donc plus du tout que l'aspect communication, mais l'aspect global, gestion des événements. Enfin voilà, j'avais une équipe avec quelqu'un qui faisait la com du coup à ma place, quelqu'un qui organisait les événements. Enfin voilà, on avait différents pôles. Et ensuite, je suis passée quelques mois après responsable régional. Donc ça, c'était à cheval sur ma prépa et mon école de commerce. Et du coup, pour revenir à l'histoire de l'école de commerce, on passe les épreuves écrites. Donc en gros, il y a des écrits et des oraux. Donc aux écrits, t'es sélectionné normalement à plusieurs écoles et ensuite tu vas passer tes oraux dans toutes les écoles et tu vois là où tu es pris et ensuite si t'as le choix tu peux choisir, sinon t'es pris dans une école, enfin bref, ou alors tu peux ne pas être pris nulle part, ça c'est plus problématique. Bref, je passe mes écrits, je me dis c'est bon, j'aurai Toulouse, je verrai, mais why not, Toulouse c'est une ville sympa, je vais peut-être aller à Toulouse. Je passe mes écrits, pendant ce temps là j'avais un pote qui était à l'école de Dijon, donc j'allais souvent à l'école de commerce de Dijon, je la trouvais sympa cette école, mais dans ma prépa c'était vraiment l'endroit où fallait pas aller, c'était vraiment, moi je l'avais mis en dernier. Tu vois, dans le classement, en gros, j'avais mis l'école de Dijon en dernier et tout le monde faisait ça dans ma prépa parce que vraiment, fallait pas aller là-bas, c'était vraiment signe que t'avais pas réussi. Mais par contre, tu la mettais quand même pour pouvoir aller passer tes oraux là-bas et avoir une sorte d'entraînement assez facile parce que c'était sur place et donc t'as pas le stress des transports. Donc tu fais tes oraux là-bas pour t'entraîner et ensuite tu vas dans les autres écoles que tu veux vraiment. Et les écrits se passent, ça se passe pas trop mal. Et là, on nous dit, fuite de sujet, vous devez repasser l'épreuve de maths. Et là, je me dis, c'est pas vrai. L'épreuve de maths, genre l'épreuve la plus, une des plus compliquées que j'avais pas trop mal réussi. Et là, une semaine pour réviser et une semaine après, tu repasses les écrits. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Impossible de travailler pendant une semaine. Impossible. J'étais dans mon lit. J'étais au bout de ma vie et en fait, je remettais ma vie en question. Je me disais, putain, mais là, en fait, je me suis rendu compte à quel point, ça y est, c'était fini. J'allais devoir faire un choix, un peu de vie. Parce que du coup, à Dijon, j'avais la politique qui prenait de plus en plus d'ampleur et moi je prenais plus de place, même au niveau national et tout, je commençais à avoir vraiment une présence. Et je me suis dit, si je change de département, de région, je vais devoir tout recommencer ailleurs. Et j'aurais pas forcément la place que j'ai à l'heure actuelle dans ma région parce que il y avait de la discrimination. Dans la politique, il y a de la discrimination positive envers les femmes dans certains partis parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Donc en fait, si tu veux mettre autant de femmes que d'hommes et que t'as moins de choix dans les femmes, c'est plus facile pour toi, si t'es plus compétente, de prendre plus de place. Je sais pas si c'est très clair, mais bref. Moi, c'est grâce à ça que j'ai pris énormément de place en politique, c'est que j'étais une des seules nanas compétences, donc j'allais beaucoup plus vite qu'il y avait des mecs autant compétents que moi qui pouvaient monter moins vite parce qu'il y avait moins de place, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai eu cette opportunité-là, et je savais que j'allais devoir tout recommencer ailleurs et que ce serait pas aussi simple. Tu vois, chez moi, j'avais des contacts privilégiés avec les députés, avec le sénateur et tout. Je savais que ça aurait pas été aussi fluide ailleurs, et surtout, je connaissais pas. Là, chez moi, ma région, mon département, je les connais. Quand tu vas ailleurs, tu peux pas faire semblant. Et en politique, il faut un minimum connaître là où t'es localement implanté. Bref, du coup, je me suis dit pendant cette semaine, mais en fait, moi, j'ai envie de faire de la politique, j'ai envie de continuer. Je sais. Et à ce moment-là, j'étais responsable départementale et je savais que j'allais pouvoir passer responsable régional si je restais là. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'aller me faire chier dans une école ailleurs où je connais personne, où le seul truc qui me fait kiffer, c'est la politique à l'heure actuelle, je retomberais au plus bas l'échelle et je sais pas si je pourrais remonter aussi facilement, rapidement, et je sais même pas si j'en aurais l'envie. Qu'est-ce que je fais? Et c'est la première fois de ma vie que j'ai écouté, pas les autres, parce que les autres m'auraient dit, mais va pas dans cette école, tu t'as pas fait 2 ans de prépa pour aller dans l'école la moins prestigieuse de ton classement, tu peux avoir mieux, tu peux faire mieux et tout. J'ai écouté mon cœur et mon envie, ma passion, Et je me suis dit, en fait, je vais rester là. Et je m'en fous. Et je me suis fait confiance en me disant, peu importe l'école que je vais faire, je sais que je vais réussir. Et je sais que c'est pas l'école qui fait ta réussite, c'est ce que tu en fais. Et c'est ce que tu fais à l'école et à l'extérieur de l'école qui va faire qu'ensuite tu vas être recruté par telle personne, que tu vas créer ton réseau, que tu vas machin. Et aujourd'hui, j'en suis encore convaincue. Et évidemment, je regrette pas du tout d'avoir choisi cette école parce que j'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire à côté. C'est-à-dire que j'ai été promue responsable régionale. J'ai fait énormément de choses. Ensuite, dans l'école, j'ai eu énormément d'opportunités. J'ai été vice-présidente du bureau des sports. Donc j'ai listé, c'était une expérience incroyable, on a organisé plein d'événements, on a fait plein de choses. J'ai été présidente de l'association qu'on appelait à l'époque le Cercle Politique, je crois que ça a changé de nom, mais on organisait des débats entre les étudiants de l'école, peu importe leur parti, leurs idées. Le but c'était d'échanger sur différentes thématiques, on a organisé un concours d'éloquence, enfin vraiment c'était incroyable. En dehors de l'école, on avait créé aussi le Parlement des étudiants à Dijon, donc pareil, c'était comme une assemblée, mais version étudiant, où en fait il y avait différents partis représentés et chacun devait porter son texte de loi, etc. Quand j'y repense, genre vraiment les gens ils sont déter, mais voilà. Donc j'ai eu énormément de belles expériences dans cette école, j'ai pas appris énormément de choses, c'était très léger en termes d'enseignement, mais je me suis découvert et j'ai enfin fait ce qui me faisait kiffer. J'ai pris ma place, j'ai osé aussi briller, on va dire, avoir des responsabilités. Voilà, j'ai eu beaucoup de réussites dans ces années-là et du coup j'en suis très contente et très fière. Et pour le coup, je sais que c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai autant de facilité à m'exprimer face caméra, à exprimer mes opinions, à emmener des gens avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « mais t'es super inspirante, t'as une capacité à créer une communauté engagée ». Tu vois, en fait, c'est juste la réalisation dans le numérique de ce que je faisais en physique. La politique, c'est exactement ça, c'est essayer de convaincre un maximum de personnes, de rejoindre tes idées, aussi quand tu te fais élire en tant que personne. C'est aussi une question de personnalité, de personal branding, en fait. Même si t'as beaucoup moins de liberté que sur du personal branding dans le business, ça existe aussi en politique et de plus en plus l'aspect personal branding, que les gens vont adhérer, voilà, c'est le mot que je cherchais, adhérer à ta personnalité. Tu vois, ça dépend des élections, mais tu vois, par exemple, le maire, il peut être élu pour ses idées politiques. Enfin, il y a surtout des gens qui peuvent ne pas voter pour lui parce que il est sur une certaine idéologie, mais il y a beaucoup de gens qui votent pour la personne du maire, pour ce qu'il est, pour ce qu'il véhicule, pour ce qu'il dégage, le charisme. Puis un maire, tu sais, c'est censé être proche des concitoyens, donc si le maire il t'a rendu un service, tu vas voter pour lui. Tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup plus de la personnalité que des idées, surtout dans les petits villages. Dans les grandes villes, évidemment, c'est les partis politiques, c'est ce qu'on va faire pour la ville en termes d'écologie, en termes de trucs, mais les petits villages, c'est pas du tout ça. Donc ça dépend des échelles, mais il y a cet aspect personal branding qui est quand même assez important. Et du coup, moi j'ai continué, pendant que j'étais en école de commerce, j'ai été candidate sur une liste aux élections municipales et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai été candidate aux élections départementales. D'ailleurs, celles qui me regardent, vous allez pouvoir voir une petite affiche de moi. Je ne montre pas les autres, mais bon, ça se trouve sur internet. Mais voilà, madame la candidate aux élections départementales. Donc moi, c'est pareil. T'sais, on m'a proposé, j'ai dit « let's go ». En fait, je me suis dit « qui peut dire ça ?» À 22 ans, je crois, j'avais, ou 23. Je suis candidate aux élections départementales, c'est trop kiffant pour le parti présidentiel, tu vois, pas pour un petit parti qu'on connaît pas. Je me suis dit, faut que je le fasse, tu vois. Et aujourd'hui, encore une fois, je le regrette pas du tout, et s'il y a des gens qui m'associent à ça et qui veulent pas m'écouter ou me parler parce qu'à une époque, j'avais cette idéologie-là, grand bien te fasse, ça va rien changer à ma vie, y a pas de souci. Mais je trouvais ça intéressant de le partager. Et je suis assez fière du parcours que j'ai pu avoir en politique, même s'il a pas duré aussi longtemps que certaines personnes. J'ai quand même eu des belles victoires et j'ai pu avancer très très vite. Donc je suis très contente. Mais tu vas te dire, pourquoi du coup, si c'était ta passion, si t'as choisi ton école en fonction de ça, que t'as mis autant d'énergie, que t'as eu autant de responsabilités, pourquoi avoir arrêté? En fait, au début, je l'ai fait un petit peu inconsciemment. C'est-à-dire que je suis partie. Donc déjà, les départementales, je me suis dit, une élection, c'est quand même quelque chose, c'est quand même de l'investissement de ouf pour pas beaucoup de reconnaissance. J'ai commencé à sentir que les gens étaient quand même très fermés d'esprit. Enfin voilà, après c'est mon idée, peut-être que c'est pas la réalité, mais je trouve quand même qu'en France on est ultra fermé d'esprit, on est plus du tout respectueux des gens qui sont élus, des députés, des sénateurs, etc. Avant, peu importe que t'étais d'accord avec eux, ils étaient élus, donc il y avait une forme de respect. Pareil pour le président. Aujourd'hui, les gens se croient tout permis. Aujourd'hui, les gens, parce qu'il y a la liberté d'expression, considèrent que manquer de respect perds un élu, c'est normal. Enfin voilà, moi à l'époque où j'étais en politique, les députés se faisaient graffer leur maison, fracasser leur permanence. Et en fait, on est rentré dans une violence, notamment au moment des gilets jaunes. Là, c'est là où j'ai commencé à perdre espoir. Je me sentais tellement impuissante et je me sentais tellement fatiguée en fait des gens qui sont pas là pour discuter, mais juste pour casser, pour se plaindre, pour remettre la responsabilité de leur vie sur les autres. En fait, je pense que les chemins étaient beaucoup trop différents entre ce que j'étais en train d'acquérir en termes de mindset, de en fait t'es responsable de ta vie, t'es responsable de ce qui t'arrive et donc tu peux réussir peu importe d'où tu pars et tout, et les idéologies politiques et la confrontation que j'avais dans la réalité des gens qui sont malheureusement dans une pauvreté, hein. Je vais pas le nier, mais je nie pas qu'il y a de la pauvreté, mais en fait je les voyais, enfin voilà, quand je voyais des gilets jaunes avec des iPhones et tout, là je pouvais pas, en fait c'était plus fort que moi, avec des baskets qui coûtent une blinde et tout, je me disais mais je peux pas gros, en fait je peux rien faire pour toi si toi-même tu n'as pas conscience de ton déséquilibre, en fait. Je me suis dit je peux pas sauver les gens et j'ai perdu espoir, je me suis dit en fait tu peux pas à travers la politique espérer que le monde aille mieux si les gens d'eux-mêmes ne font pas le travail. Et du coup, bah forcément, je trouvais plus de sens dans ce que je faisais, je trouvais plus d'intérêt, parce que j'avais plus d'espoir, en fait. Je me disais, les gens qui sont pas prêts, c'est comme maintenant dans mon business, les gens qui sont pas prêts à investir en eux, je ne les force pas. C'est pas le moment pour eux, et peut-être qu'ils l'auront jamais, malheureusement. Mais je veux pas forcer des gens à acheter un truc alors qu'ils sont pas prêts. Et bien, en politique, c'est pareil, tu peux pas forcer des gens à penser comme toi, ou à essayer d'aller de l'avant, s'ils sont pas prêts. Et s'ils ont pas le bon mindset pour ça. Et du coup, bah forcément, je me suis détachée de tout ça parce que je pouvais pas, moi, essayer d'avancer personnellement, de me développer personnellement, en prenant toute la misère du monde de gens qui n'ont pas envie d'avancer au fond d'eux et qui pensent que c'est à travers les autres, les aides, etc., qu'ils vont s'en sortir. En fait, mon développement personnel ne collait plus avec le monde de la politique, qui est en fait un monde très tourné vers l'autre. Pour moi, tu peux pas sauver l'autre s'il est pas prêt. J'ai tout arrêté. Les infos, l'actualité que je suivais depuis que j'étais en prépa, tous les jours, j'avais les notifs. Et je sentais que ça commençait à me plomber en termes d'énergie, en termes d'état d'esprit. Donc je me suis dit, je me détache de tout ça et je me concentre sur moi. Et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire, en fait. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait, de me dire, en fait, t'es trop jeune pour assumer la responsabilité des autres. Il faut que t'apprennes à te connaître toi-même, que tu te développes toi-même. Peut-être qu'après, j'aurais envie de me réengager en politique pour sauver le monde et que je serais profondément convaincue que je peux aider les gens. Là, c'est pas le cas. Je me dis, il faut déjà que je m'aide moi-même, il faut déjà que je me développe moi-même, et voilà. Et je me suis dit aussi, si j'arrive à développer un business, à générer des milliers et des millions d'euros, bah peut-être que j'aurais plus d'impact que si je faisais de la politique et que mes seuls moyens étaient des moyens idéologiques, des lois qui mettent des années à passer. Je me dis malgré tout qu'avec de l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Je me dis, moi j'adorerais créer une fondation, tu vois, et je me dis t'as beaucoup plus d'impact avec de l'argent ou avec du temps et de manière plus personnelle qu'à travers des partis politiques. Donc voilà un petit peu ma vision des choses maintenant et le pourquoi du comment j'ai arrêté la politique. Et il y a aussi d'autres raisons qui ont fait que j'ai arrêté. C'est que bah, dès que tu pensais un petit peu différemment du groupe, bah tu te faisais, t'étais un peu le mouton noir. Dès que t'avais un avis différent, bah voilà. Alors qu'au début, c'était pas du tout ça. Ce parti, il était très très ouvert, c'était le but. Mais ensuite, ça devenait très fermé. Il y avait aussi un manque de considération énorme pour les femmes, que j'ai ressenti aussi après chez Canal+. Mais voilà, t'avais en fait chez les jeunes la discrimination positive envers les femmes, parce que voilà, les quotas, les trucs, c'était notre parti qui faisait en sorte qu'il y ait des quotas dans l'assemblée et tout. Mais par contre, il y avait encore des vieux qui étaient là, qui te considéraient pas et qui disaient que t'étais là parce que t'es jolie, quoi. Donc ça, ça me plaisait pas trop. Et voilà comment j'ai vécu ça. Donc ensuite, l'école de commerce, du coup, je t'en ai parlé. J'ai participé à plein d'assos, j'ai fait plein de trucs. Ensuite, dans mon école de commerce, j'ai fait une année de césure. Ce qu'on appelle une année de césure, c'est une année où tu fais des stages qui te permet d'acquérir de l'expérience avant d'entrer dans le marché du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien pour le coup en école de commerce. Je vois les gens qui sont en fac, qui n'ont jamais été dans une entreprise de leur vie et qui pensent qu'on va les embaucher, qu'ils sortent alors qu'ils n'ont rien fait et qu'ils ont un CV vide. Ça, c'est pas possible. Genre, pour moi, c'est impossible à l'heure actuelle dans notre société. L'avantage des écoles de commerce, c'est que t'as accès à des stages assez facilement et de façon t'as pas le choix, et du coup tu remplis ton CV. Il y a des gens, comme ils avaient fait 2 ans de prépa acharnée, ils avaient jamais bossé de leur vie, donc pour trouver leur premier stage ça a peut-être été un peu difficile, mais au moins après ils ont rempli leur CV comme ça. Donc l'année de césure c'est fait pour ça, pour avoir 2 stages de 6 mois qui t'aident à savoir ce que tu veux faire, à avoir une expérience professionnelle, etc. Donc année de césure, moi je rencontre en politique un mec qui cherchait une chargée d'affaires, et moi j'étais allée voir une conseillère d'orientation quand j'étais à l'école, parce que en fait moi je voulais faire un stage à l'Assemblée nationale, évidemment je connaissais des députés et tout, donc je voulais en profiter, sauf que à l'Assemblée tu peux pas faire, enfin ça collait pas avec moi mon timing de stage, il y avait un souci, tu pouvais pas, je sais plus si c'est parce que tu pouvais pas faire 6 mois ou si moi c'était à cheval sur les vacances, enfin bref, et ils avaient pas des enveloppes de ouf, donc il y avait plein de trucs qui allaient pas trop, mais on s'était dit on va s'arranger. Mais j'étais quand même allée voir la nana là, l'espèce de conseillère d'orientation, en lui disant ça, et l'autre elle m'avait dit ah non mais fais pas un stage en politique, tu peux pas pendant ton année de césure te gâcher une chance d'aller en entreprise, il faut vraiment que l'école elle te serve pour ça et tout. Donc je m'étais dit bon, elle me dit en plus t'as déjà une expérience politique donc il faut que tu aies une expérience en entreprise, non. Je me dis bon super, et ils me font un test de personnalité, et comme t'aimes bien la politique, t'aimes bien tchatcher, t'aimes bien convaincre les gens, le truc le plus adapté pour toi c'est chargé d'affaires. Ce que j'avais pas compris à l'époque c'est que chargé d'affaires ça veut dire commercial, hein, en gros. À la base ça aurait dû quand même me questionner, mais je me suis dit bon allez d'accord. Je vais en événement politique et je rencontre un mec qui me dit ah bah tu cherches un stage, tu cherches quoi comme stage, bah chargé d'affaires, ah bah cherche une chargée d'affaires, ah bah génial. Et en fait le mec était ancien président du MEDEF et tout, donc je m'étais dit putain trop bien parce que je vais être quand même en entreprise, mais je vais avoir quelqu'un qui est aussi dans la politique, qui a un réseau, qui va m'ouvrir des portes, qui est chef d'entreprise, donc vraiment tous les avantages du monde. Donc j'y vais, je réfléchis pas, et le premier mois tout se passe bien, je suis avec lui dans ses rendez-vous, en plus on est en janvier donc on va à toutes les cérémonies de vœux, je vois les députés que je connais, je me dis bon bah super, je suis un peu dans les deux mondes, c'est génial, c'est ce que je veux. Deuxième mois, le mec me met dans un bureau et me dit bah tiens, maintenant c'est bon, t'as vu ce qu'on fait, maintenant tu vas appeler des listes d'appels pour leur vendre nos solutions. C'était dans les télécoms, hein. Donc en fait je me suis retrouvée centre d'appels pour vendre des systèmes de communication aux entreprises, tu vois, des téléphones et tout, les trucs qui n'existent même plus, téléphone fixe, qui a un téléphone fixe, bref. Donc je me dis allez, j'ai pas le choix, j'appelle de toute façon pour avoir des clients, parce qu'il m'avait dit bah une fois que t'auras tes clients, après tu les suis tout le long et là tu vas avoir d'autres missions, ça va être génial. Donc je me suis dit ok, j'ai pas le choix, il faut que je passe par là pour trouver des clients et ensuite j'aurai mon portefeuille de clients que je pourrai développer et j'aurai d'autres missions que juste faire des appels. Je fais mes appels, je fais des mails, machin, j'arrive à avoir un gros contrat et là je me dis trop bien, on fait le rendez-vous, les gens trop chauds, un contrat, potentiellement d'autres projets dans d'autres villes et tout, et là je me dis jackpot, je sais en plus combien de contrats avaient été signés. Et en sortant, ma maître de stage, elle me dit « Bon bah c'est génial, hein, je te payerai un resto », que j'ai jamais vu le resto d'ailleurs. Et là je me suis dit « Putain, genre je vais avoir un resto à 30 balles d'un truc que je viens de signer à plus de 20 000 balles, tu vois ». Et pour moi à l'époque, je me rendais pas compte que 20 000 balles, quand tu signes un devis de 20 000 balles, tu gagnes pas 20 000 balles, mais... Voilà, c'était pour dire que ça commençait à me chatouiller un petit peu à ce moment-là, à cette époque-là, de générer de l'argent pour les autres et de pas toucher un pécor. Et je me dis, c'est pas grave, je vais pouvoir gérer le client, je vais pouvoir découvrir d'autres missions. C'est pas... J'ai jamais vu la couleur du projet. Je me suis retrouvée dans le bureau à faire des appels. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, ils me prennent pour une conne. Je fais pas bac plus 5 pour me retrouver à passer des appels téléphoniques. Donc ensuite, j'ai essayé de proposer des systèmes d'emailing, des réseaux sociaux, des trucs beaucoup plus dans l'air du temps que de faire des appels téléphoniques. Ils m'ont dit oui oui c'est super, j'ai jamais pu y mettre en place. Donc j'ai pété un plomb, je pleurais tout le temps dans le bureau, j'étais au bout de ma vie, je me sentais comme une merde. Et au bout d'un moment bah ça allait tellement pas que on m'a dit d'aller voir un médecin, enfin voilà, un ami à moi de l'époque m'a conseillé une médecin parce qu'il voyait que j'allais pas bien, et donc je lui dis bah là j'ai des plaques dans le crâne et je commence à en avoir sur la peau, je sais pas ce que c'est. Et elle me dit mais ça va vous, votre famille et tout? Je dis oui oui. Et votre boulot ça va? Et là je me mets à fondre en larmes. Et là elle me dit ok, il y a un souci, on en parle et tout. Et elle me dit ok, je vais vous arrêter parce que là c'est pas possible. Et donc ensuite j'ai fait l'appel avec mon école qui a été très compréhensive, qui m'ont dit en fait tu payes pas 30 000 balles, ils m'ont pas dit ça comme ça, mais ce qui était vrai, tu payes pas 30 000 balles pour te retrouver à passer des appels pendant 6 mois, donc on arrête là. Donc j'ai coupé mon contrat, et là, Covid. Donc moi, une chance de ouf. Au début j'ai stressé parce que je me suis dit je retrouverai pas de stage. Et après comme j'ai vu que ça durait un peu, j'ai commencé à me dire ok, c'est le moment pour moi où j'ai zéro pression extérieure et où faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et mon chéri à ce moment-là m'a vachement encouragée, donc c'est à ce moment-là que j'ai lancé Apprenti Vivant, qui était ma première expérience un petit peu d'auto-entreprise, où en fait, comme j'avais écrit les discours de certains politiques, etc., on m'avait dit, bah, tu peux monétiser cette compétence de prise de parole, etc. Donc, je donnais des conseils en prise de parole. Et c'est comme ça que ça a commencé, Apprenti Vivant. Ce qui est trop marrant, ce que j'aime bien raconter comme anecdote, c'est que mon premier client et mon seul client, en fait, d'Apprenti Vivant, en réalité, c'était mon école. En fait, mon école a vu que je donnais des conseils sur les réseaux, que je lançais mon truc et tout. Du coup, ils m'ont demandé, parce qu'on était en période de Covid, si je pouvais faire des vidéos pour donner des conseils aux étudiants, pour passer leurs écrits, pour passer leurs oraux, pour s'organiser, etc. Donc j'étais devenue un petit peu l'égérie de l'école pendant le confinement, qui te donne des conseils pour obtenir tes concours. Donc c'était assez cool et franchement ça m'a permis, et c'est là vraiment où j'ai réalisé que tu peux gagner de l'argent en travaillant pour toi-même, que tu peux vendre des compétences, et que surtout tu peux générer beaucoup plus d'argent en beaucoup moins de temps que quand t'es salarié. Et là je me suis dit, je pourrais plus jamais retourner en entreprise de ma vie, c'est pas possible. Donc ensuite, j'ai fini mon stage, mon année de césure en faisant un stage dans la boîte de mon chéri pour pouvoir développer mon truc à côté et pour être sûre d'avoir mon année. Entre Apprenti Vivant et mon départ en Suède, comme j'avais quand même malgré tout besoin d'argent et que juillet, août, c'était plus calme, tu vois, l'école, mon seul client s'était fermé, je suis retournée bosser à un job étudiant et j'étais au rayon charcuterie à Leclerc. Et du coup, c'est assez marrant parce que tu vois, malgré ma première expérience entrepreneuriale, j'ai dû retourner au charbon. Et c'était la dernière étape. C'était le dernier moment où je me suis dit, non mais là, c'est pas possible. Faut vraiment que je trouve une solution parce que je veux pas travailler pour quelqu'un d'autre et encore moins dans ces conditions. Donc je suis partie en Suède, j'ai fait mon petit passage en Suède en solo. Ça a été une super expérience, même si c'était pas aussi incroyable que plein de gens le disent sur l'expatriation, parce que je pense que j'étais plus vieille que ceux qui partent, tu vois, j'étais posée, j'avais déjà eu ma boîte, j'avais déjà fait plein de trucs, j'étais plus du tout dans le mode on va faire la teuf, on va sortir, on va s'amuser, tout. J'étais plus dans le mode, bah, je vais chiller, je vais profiter. J'ai beaucoup travaillé aussi parce qu'en Suède, t'as quand même beaucoup de taf. J'ai voyagé, mais voilà, j'étais dans un truc très chill et c'était assez intéressant pour moi. Mais je te dis pas, comme certains disent, que c'est le voyage qui m'a transformée, qui m'a appris à me connaître. Je pense que j'étais pas encore dans ce chemin-là. Je pense que là, si je pars cette année ou l'année prochaine, là, je pourrais dire c'est un voyage qui m'a transformée parce que je suis plus concentrée sur moi. À l'époque où je suis partie en Suède, j'étais encore dans mes études, j'ai écrit mon mémoire professionnel. Enfin, tu vois, j'étais toujours dans ce truc de je fais pour les autres et je contrôle pas ma vie. Que là, si je pars, en fait, je serai 100% indépendante, donc je pense que je pourrais apprendre mieux à me connaître, etc. Donc ça dépend des gens, mais voilà, j'ai un très bon souvenir de ce trimestre en Suède, mais c'est pas non plus un truc qui m'a changé la life, mais c'était une très très bonne expérience. Pendant que j'étais en Suède, je devais trouver un stage. Donc en fait, pendant que j'étais en Suède, j'avais plein de trucs. Enfin voilà, j'étais déjà dans le futur. Je devais trouver un stage. J'ai passé plusieurs entretiens avec Canal+, enfin t'as plusieurs étapes de recrutement, et j'étais vraiment ravie à chaque fois de les passer, parce que je me rendais compte que j'avais quand même un parcours très particulier. Et qui n'est pas le parcours de master de stage de fin d'études que tout le monde a, c'est-à-dire t'as déjà 2-3 expériences professionnelles dans des grands groupes, chez L'Oréal, chez j'en sais rien, chez Ferrero et tout. Moi, j'avais pas du tout fait ça. Pendant ma césure, j'ai eu ma propre boîte, j'ai fait de la politique, enfin tu vois, parcours pas du tout classique d'école de commerce. Et pour mon stage de fin d'études, je voulais quand même aller dans un grand groupe parce que je me disais c'est quand même dommage de pas profiter de l'école de commerce qui ouvre les portes sur ces grands groupes pour des stages ou des alternances. Alors que j'ai fait tout le reste, j'ai fait ma propre boîte, j'ai été dans une start-up dans mon tout premier stage d'école de commerce quand j'ai commencé à venir à Paris, j'ai été dans une agence, enfin voilà, du coup maintenant je voudrais être dans un grand groupe pour me dire au moins je l'aurais fait dans ma vie et je sais ce que c'est. Et du coup, je passe les étapes de Canal, malgré mon parcours un petit peu différent et atypique. Et au final, c'est ce qui fait que je me suis retrouvée dans ce service-là, donc j'en suis trop contente. Et tout arrive pour une raison et tout est possible. Je me suis fait recal de plein de services parce qu'ils devaient se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? » Enfin, genre rien à voir, pas du tout ce qu'on cherche. Et j'ai été acceptée par ma maître de stage justement parce que j'avais ce parcours atypique, parce que j'avais bossé aussi les étés pour pouvoir partir en Suède, avoir assez d'argent. Et en fait, elle cherchait quelqu'un de démerde, de travailleur, de enfin voilà, de qui peut s'adapter facilement et tout. Donc on faisait de la com, on faisait de l'événementiel et on avait plein de projets en même temps. Et ma boss avait une personnalité aussi qui allait très vite, donc elle cherchait des profils qui pouvaient coller avec cette personnalité là et on s'est trouvé et ça a été un petit peu le coup de foudre. Donc j'étais trop contente et vraiment, Fanny, si tu m'écoutes, elle m'écoutera pas, mais voilà, enfin on a tissé des liens qui étaient ultra forts et ça m'a réconciliée malgré tout avec le monde de l'entreprise, parce que vraiment j'étais angoissée. Je me disais, mais je vais devoir retourner dans ce calvaire, je vais pas supporter, c'est pas fait pour moi. Et au final, j'ai quand même passé un très très bon semestre, parce que c'était une boss ultra bienveillante, parce qu'on kiffait, parce qu'elle, elle adorait ce qu'elle faisait, parce qu'on a organisé des événements de fou. Je suis allée au César, j'ai rencontré des stars, enfin tu vois, c'était un stage de kiff, tu vois. Et même s'il y avait beaucoup de taf, et que ça prenait énormément d'énergie, j'ai kiffé. Donc je regrette pas du tout, encore une fois, mais par contre je me suis dit, bon, ça a encore confirmé le fait que j'ai rien à foutre dans une entreprise, ça me fait chier d'avoir des horaires de bureau, ça me fait chier de devoir quémander une augmentation alors que tes missions augmentent ou que ton travail est bien fait, ça me fait chier d'avoir des gens qui te respectent pas, d'avoir que des mecs au poste à responsabilité, d'être la nana qui distribue les bracelets, enfin voilà. Et je l'avais écrit dans mon journal que j'ai retrouvé là, je m'étais dit, c'est sympa, je rencontre des stars, mais je veux que ce devienne moi la star, tu vois. Je veux pas être la nana qui organise les événements, je veux être la nana qui est invitée aux événements, tu vois. Et déjà à ce moment-là, et depuis toujours en fait, je me suis dit ça. Donc c'était une super expérience, mais je savais que c'était pas du tout ma place et que je voulais pas être dans ce monde de paillettes tout en étant dans l'ombre. Et finalement, et on va arriver à la fin de cet épisode qui sera beaucoup plus long que les autres, mais c'était sûr parce que j'avais énormément de choses à raconter. Du coup, je l'ai revu là dans mon Notion, je m'étais mis des petits objectifs en 2022, dont le fait de commencer le CrossFit. Parce que j'en avais marre de faire ces 6 mois, j'avais pas de place dans mon appart à Paris et je me suis dit, je veux pas rester sédentaire, c'est pas possible. Il faut que je trouve une activité et ça va me permettre aussi de rencontrer des gens, de me sentir moins seule, etc. Donc je me mets ce challenge de commencer le CrossFit. Et en fait, c'est là que tout a commencé. Aujourd'hui, je me dis, mais si Val m'avait pas dit « teste le CrossFit, tu vas voir, c'est incroyable », je serais pas là aujourd'hui. Genre vraiment, il y a rien qui serait arrivé. Donc j'ai commencé le CrossFit et en fait, à ce moment-là, je commençais à me dire « bon bah, je suis en stage de fin d'études, il va falloir que je trouve un travail. » Parce que je me disais, je n'avais pas d'idée de business, je voulais pas reprendre mon business de prise de parole. Donc je me disais, en attendant, il faudra quand même que je trouve quelque chose, même si je sais que je suis pas faite pour ça. Peut-être que je peux trouver quand même un taf qui me plaît en attendant, et je verrai par la suite. Donc je m'étais dit, bah j'irai bien dans une agence. Et en fait, je suivais beaucoup de gens sur LinkedIn, et j'ai découvert des mecs qui avaient lancé, pendant le confinement, une agence TikTok qui s'appelle Sleek. Et je voyais de plus en plus d'agences TikTok se lancer et tout, je me disais, putain, il y a quand même un truc. Et je me disais, moi, je suis jeune, et en fait, bah, ça pourrait être un truc qui me fait kiffer, pourquoi pas. Je voyais de plus en plus de marques qui se lançaient sur TikTok. Je voyais des gens qui se lançaient sur TikTok qui prenaient des dizaines, des milliers d'abonnés d'un coup. Et je me suis dit, là, il y a un truc, tu vois, il se passe quelque chose. Et donc, j'ai fait une visio avec un des gars de Sleek qui cherchait quelqu'un pour la partie événementielle, mais c'était tout de suite. Et je lui ai dit, bah, non, moi, je finis mon stage dans 2-3 mois, c'est pas possible. Mais après ce call, je me suis dit, ok, je veux travailler là-bas, donc je vais lancer un compte TikTok. J'ai 3 mois pour avoir 10 000 abonnés, et dans 3 mois, je pourrais revenir vers eux et leur dire, regarde, depuis notre rendez-vous, j'ai lancé mon TikTok parce que j'ai compris que c'était un truc de dingue et que j'ai vu que j'avais pas les compétences encore et qu'il me fallait les compétences pour rentrer dans votre boîte et être beaucoup plus efficace pour vos clients et tout. J'ai mes 10 000 abonnés, voilà ce que j'ai fait en 3 mois, tu m'embauches. Et j'avais déjà commencé à créer mon CV et tout, hein, vraiment. Je pourrais le retrouver, je l'avais envoyé un coup à Adrien, je crois, ou à Antoine. J'avais fait mon CV aux couleurs de Sleek, en mettant mon compte, mon petit compte TikTok où j'avais 500 abonnés et tout. Et donc en 3 mois, j'avais mes 10 000 abonnés. Mais j'avais eu d'autres opportunités qui étaient assez intéressantes, mais qui me proposaient des salaires de merde, des trucs. Il y a des gens qui s'en seraient contentés à ma place parce que tu commences, parce qu'il faut des années avant d'avoir mon salaire, parce que c'est normal, parce qu'à Paris, il y a des opportunités, mais que pendant quelques années, il faut se serrer la ceinture. Non, je refuse, je ne veux pas bouffer des pâtes et vivre dans un 15 mètres carrés alors que j'ai fait un bac plus 5 et qui m'a coûté 30 000 balles. Et j'ai très vite fait le calcul de t'enlèves 500 euros de prêt par mois parce que je devais rembourser mon prêt, t'enlèves 1000 balles de loyer, il te reste peanut à la fin du mois. Donc j'aurais continué à bouffer des pâtes pendant des années. Donc je me suis dit, je ne veux pas. Et c'était pas du tout aligné avec moi. Je me sentais angoissée à l'idée de me dire ça. Donc je me suis dit, ok, c'est très bien, tu vas pas te forcer. Tu vas rentrer et tu vas voir ce qui se passe. Et j'ai commencé à avoir des marques qui m'ont contactée, à développer encore plus ma communauté. J'ai commencé à avoir des collaborations en UGC et en influence. Et au final, bah, l'histoire, la suite, tu la connais. J'ai réussi en janvier, au moment où je devais commencer à rembourser mon prêt, à faire quatre fois l'équivalent de ce que je devais rembourser par mois. Alors que mon objectif, c'était juste de rembourser mon prêt grâce à ma création de contenu. Et comme ça, je change pas de mode de vie. J'étais dans une agence de com à l'époque. J'avais un chiffre d'affaires qui était assez correct. Et je m'étais dit, la création de contenu, ce sera un plus pour rembourser mon prêt. En janvier, je fais 4 fois ce que je dois rembourser. Et là, je me dis, ok, il y a un truc. Et je peux en faire mon temps plein, mon métier. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et c'est comme ça que je vais réussir à travailler pour moi-même. Donc je me suis dit, je vais me lancer sur YouTube et je vais partager mes conseils. Parce que le crossfit, la nutrition, c'était bien sympa, mais c'était ma passion. Mais j'avais pas de compétences et j'avais pas volonté de me former là-dedans. Donc je me suis dit, tes compétences, c'est quoi? Et qu'est-ce qui a fait aussi que t'as réussi aussi vite sur les réseaux? C'est parce que t'as des compétences en communication. Donc tu vas partager ces compétences sur YouTube. C'est comme ça que j'ai créé mes premières vidéos sur comment devenir créateur de contenu UGC, comment monétiser son contenu grâce à TikTok, etc. Et là, j'ai eu beaucoup de demandes de filles qui me disaient « Mais je veux faire comme toi. Comment t'as fait pour ci? Comment t'as fait pour ça ?» Et c'est là que l'idée de Success Story est née. Et voilà la fin de l'histoire. La suite, tu la connais. Je la raconte dans tous ces épisodes de podcast. Mes derniers trimestres, mon chiffre d'affaires, ce que j'ai mis en place dans mon business, je vais pas revenir là-dessus. Là, c'était vraiment pour faire l'historique avant Success Story. Donc là, j'ai créé Success Story en mai 2023. Et aujourd'hui, tu sais où j'en suis. Si tu ne le sais pas et que tu me découvres à travers cet épisode, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents. Je raconte absolument toutes les coulisses de mon business, de ma création de contenu. Je donne beaucoup de conseils mindset parce que le mindset, c'est la base. Bref, tu as toutes les clés qu'il te faut sur ce podcast. Je te dis à très vite, ma queen. N'oublie pas de partager en story si tu m'as écouté jusque-là, à lâcher 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, à mettre un like sur YouTube, à t'abonner si tu me regardes sur YouTube. Bref, voilà, je te dis à très vite. J'espère que mon parcours aura pu t'inspirer à ton échelle et je te souhaite énormément de réussite. En tout cas, n'abandonne jamais et tu vas réussir, j'en ai aucun doute.